L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Aujourd'hui, on a un message spécial. On commence une série qui s'intitule « L'école de l'Esprit ». Alors, amen, est-ce que vous êtes prêts ce matin à aller dans la parole de Dieu? L'école de l'Esprit. Vous savez, mercredi soir, on a eu une rencontre spéciale avec les visionnaires. Tout le monde est invité et ceux qui sont venus ont reçu un petit peu encore une fois la vision de l'Assemblée ici, connaître un petit peu l'historique de l'Église. Et on a passé un sondage également concernant l'intimité qu'on a avec le Saint-Esprit et avec Dieu. Donc, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent en vie? Est-ce qu'on se sent dans un état desséché? Et c'était vraiment intéressant pour moi. C'est pas un sondage scientifique, mais c'est intéressant quand même de savoir comment les gens se ressentent. Et j'ai pu voir un parallèle entre des gens qui ont reçu une expérience spirituelle dans leur vie et comment ils se sentaient dans leur vie spirituelle et ceux qui ne l'avaient pas reçu et comment eux se sentaient. On voyait un parallèle vraiment entre les deux groupes et je peux vous dire, c'était pas toujours le cas, mais en général, on voyait ça. Et hier également, on a pris le même sondage qui était juste un petit peu modifié sur la dernière question, mais c'était le même sondage pour les élèves de l'Institut biblique. Et encore une fois, on voit la même chose qui se reproduit en grande partie. Alors, je trouve ça intéressant et vous allez voir tout au long de cette école sur l'Esprit de Dieu, vous allez voir des choses. On va enseigner sur la plénitude du Saint-Esprit. On va voir également ensemble les dons du Saint-Esprit, comment on peut opérer et comment le Saint-Esprit peut se servir de nous avec ces dons-là. Comment, bien sûr, c'est encore la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui, qu'on soit revêtus de la puissance de Dieu. Et on va voir plein de choses intéressantes ensemble. Je pense qu'on va vraiment être bénis. Et, mais premièrement, avant d'aller plus loin, on va juste pencher nos têtes pour remettre ce temps-là au Seigneur. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Jésus, encore une fois. Et on veut se tenir devant toi pour te demander de nous aider ce matin. De nous aider, Seigneur, à bien recevoir le message, Seigneur, que t'as pour nous, Seigneur, la parole de Dieu. Seigneur, je prie que tu nous ouvres les yeux pour qu'on puisse saisir par la foi les choses, Seigneur, qui sont cachées peut-être pour certains d'entre nous et qu'on puisse recevoir la révélation de ton Saint-Esprit aujourd'hui dans nos vies et dans notre Église. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Moi, je crois que le Seigneur veut se glorifier dans notre région. Savez-vous ça? Je crois que le Seigneur veut se glorifier dans vos vies. Et je crois que c'est nous. Nous décidons si le Seigneur va se glorifier dans nos vies. Nous sommes la personne, qui va décider si le Seigneur va vivre, s'il va faire en sorte qu'il y ait un réveil dans cette église. Savez-vous ça? Parce que des fois, on dit, bien moi, j'attends que le Seigneur fasse quelque chose. Mais en fait, comme le pasteur Derain, j'aimais ça, qu'est-ce qu'il dit ça, parce que je suis d'accord avec lui. Des fois, on dit, j'attends que le Seigneur fasse ceci, j'attends que le Seigneur fasse cela. En fait, c'est le Seigneur qui attend après nous. Le Seigneur attend qu'on se mette en position pour vivre le réveil. Il attend qu'on puisse vraiment dire oui au Seigneur. Et comme j'ai dit souvent, on veut certainement toujours dire oui au Seigneur Jésus pour vraiment marcher dans sa volonté parfaite et par la suite recevoir l'héritage de l'enfant de Dieu. Amen. Et ce matin, j'ai plein de choses à vous partager et même cette semaine, le Seigneur m'a donné des choses nouvelles à partager à l'Assemblée que je crois qui sont vraiment des choses importantes pour notre Assemblée. Parce que Dieu, il veut bénir et Dieu veut faire grandir cette assemblée. Amen. Et Dieu veut faire des choses au niveau de l'ordre dans notre assemblée également. Savez-vous ça? Et des fois, il y a des gens qui vont dans une église et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un orateur. Un orateur, c'est quelqu'un qu'on peut écouter sur un site web. On écoute le prédicateur, on le connaît pas et quand ça nous dérange, on ferme l'ordinateur. Ça, c'est un orateur. Ça, finalement, c'est pas un berger sur la personne. C'est un berger pour les gens qui l'écoutent et ceux qui sont dans son assemblée. Mais Dieu ne nous appelle pas à suivre des orateurs. Dieu nous appelle à être dans une église locale avec un berger. Et savez-vous le rôle du berger? Le rôle, comme le berger a un genre de, comment on peut dire? Ou un bâton, j'aime ça, ou houlette, OK? Pas un bat de baseball, mais un bâton, moi je vais dire bâton, OK? Le bâton n'est pas là pour taper sur les brebis, n'est-ce pas? Le bâton, il n'est pas là pour assommer la brebis. Mais quand la brebis s'en va dans un mauvais chemin, la responsabilité du berger, c'est de ramener gentiment, hein, avec amour, la brebis qui est en train de se rendre dans le fossé. Donc ça, c'est le rôle du berger. Cependant, si on écoute seulement un prédicateur sur l'Internet, on peut recevoir des conseils, mais finalement, ce n'est pas un pasteur sur notre vie. Et Dieu nous appelle à en avoir un. C'est super important parce que quand on marche sous autorité, qu'est-ce qui se passe? On est protégé spirituellement aussi. Amen. J'ai cru à ce message, qu'est-ce que je vais vous prêcher ce matin? J'ai cru et je me suis soumis à la parole de Dieu pendant une saison et encore aujourd'hui parce que je suis encore sous autorité. Savez-vous que même le Seigneur Jésus était sous autorité? Absolument, sous l'autorité de son Père. Et en même temps, Dieu est encore sous autorité, même si c'est lui le chef. Il se soumet à sa propre parole. Dieu ne contredira jamais sa parole. Donc, Dieu se soumet. Il va accomplir sa parole. Gloire à Dieu pour ça. Alors, j'ai des choses à vous partager parce que je crois le Seigneur veut se glorifier parmi nous. Je crois que la gloire de Dieu va éclater ici, dans cette place. Moi, j'y crois sincèrement. Je crois que Dieu va faire des grandes choses et même jusqu'à notre retraite. Moi, je crois et je m'attends qu'à chaque semaine, on va bâtir précepte sur précepte et on va bâtir une fondation de foi pour vivre la plénitude du Saint-Esprit. Je crois, c'est ce qu'on va faire pendant un temps. Mais avant de bâtir et de vivre l'explosion de gloire, il y a des choses qu'on doit voir dans nos fondements. Et c'est au niveau de l'ordre. Et savez-vous, de l'ordre, ça devrait être quelque chose de positif quand on veut ramener de l'ordre. OK? Parce que, savez-vous, quand on bâtit une maison, c'est très rare qu'on va dire aux gens, venez voir les fondements, c'est super beau. Non, mais si on n'avait pas les fondements, la maison s'écroulerait plus tard. Amen? Donc, juste une chose, je vais vous dire dans Joël chapitre 2, verset 28, c'est une promesse. Il est écrit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » C'est merveilleux, n'est-ce pas, de savoir que dans les derniers jours, on va vivre la gloire de Dieu. Dans les derniers jours. Et je crois que nous sommes dans les derniers jours. Je pense que si vous allumez la télévision, vous écoutez un peu les nouvelles, vous voyez les politiques d'Obama, vous allez voir que nous sommes en train de vivre la réalisation des prophéties du Nouveau Testament, de l'Apocalypse. Nous voyons la réalisation plein de choses lorsqu'on écoute la télévision aujourd'hui. Donc, on le sait, dans ces derniers jours, on va vivre ces choses-là. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est écrit, « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc, Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles. Ils sont là pour nous. Mais pour vraiment bénéficier de ces bénédictions que le Seigneur nous donne, il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui dans cette assemblée. Avant d'aller plus loin et avant de se reproduire davantage, vous savez, à chaque semaine, on a des visiteurs et des personnes qui se rajoutent à l'assemblée. C'est un bon signe, n'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut faire comme l'apôtre Paul qui disait, « Regarde-moi, suis mon exemple et imite-moi. » Êtes-vous prêt aujourd'hui à dire à la nouvelle personne, au nouveau converti, « Regarde ma vie et fais exactement comme moi et là, tu vas réussir ta vie chrétienne. » Êtes-vous prêt? Si c'est non, votre réponse, vous êtes pas vraiment certain, mais gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir changer des choses. On va pouvoir dire, ben Seigneur, aide-moi à être capable à dire à quelqu'un, suis-moi, et tu vas te rendre jusqu'au bout, comme l'apôtre Paul a fait. Moi, je veux faire cette prière-là, et dire, Seigneur, aide-moi vraiment à être le modèle parfait que tu veux, parce que Dieu est à veille de multiplier cette église davantage. Comme vous voyez, à chaque semaine, on voit la main de Dieu faire des grandes choses, avec aussi le ministère, avec la télévision qu'on a commencé il y a quelques semaines, la radio, l'Institut biblique, il y a plein de choses excitantes qui s'en viennent davantage à l'église ici, mais on doit mettre notre maison en ordre. Amen. Alors, j'espère que vous allez recevoir ce message-là comme un message d'amour. Quand quelqu'un s'en va dans un chemin à sa perdition et puis on lui dit, viens-t'en de notre côté, le ciel c'est par là, bien la personne pourrait être offensée et dire, ben là, t'es en train de me dire quelque chose que j'aime pas. Mais si c'est pour sauver la vie de la personne, ça vaut la peine. Amen. Alors aujourd'hui, ne soyez pas sensibles dans vos cœurs, soyez sensibles au Saint-Esprit. Amen. Si on est sensible au Saint-Esprit, on va changer et on va aller de gloire en gloire, puis on va s'améliorer, parce qu'il y a des choses qu'on doit mettre en ordre. Amen. Donc, une des choses, avant de vivre les miracles, vivons la pratique parmi nous, et il faut valoriser les choses que le Saint-Esprit valorise parmi nous. OK? Donc, on veut vivre les valeurs, on veut vivre la gloire du Saint-Esprit, mais on doit valoriser ce que le Saint-Esprit valorise. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 33, 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 33, il est écrit, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dans les églises des saints, les églises des gens qui ont été sanctifiés, mis à part pour Dieu, il devrait y avoir de l'ordre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est une église conservatrice où le mouvement du Saint-Esprit n'existe pas, où les gens sont solennels à leur place, où les gens n'applaudissent pas, ne lèvent jamais les mains? Non, c'est pas ça l'ordre. L'ordre du Saint-Esprit implique une louange extravagante, ça implique un engagement dans la louange. On est engagé quand on loue le Seigneur. Ça, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Il y a aussi tous les dons du Saint-Esprit en opération, mais qui sont toujours guidés par l'amour, inspirés par le Saint-Esprit et soumis à l'autorité de la maison. Comprenez-vous? Donc, avant qu'une personne donne une parole prophétique dans notre assemblée, les gens viennent me voir et me posent la question, j'ai cette parole, est-ce que je peux la donner? Et habituellement, les personnes qui vont donner des paroles prophétiques à l'assemblée, c'est des gens qu'on connaît déjà, qui viennent déjà prier les mercredis soirs, avec qui on a pu côtoyer assez longtemps pour apprendre à connaître leur cœur et par la suite les relâcher là-dedans. Parce qu'on croit certainement les dons du Saint-Esprit sont en opération aujourd'hui, mais c'est pas, vous verrez pas un micro en avant ici où n'importe qui peut venir donner une parole prophétique. Si vous attendez à ça, vous êtes à la mauvaise église. Parce qu'ici, on veut de l'ordre. Mais des fois, qu'est-ce qu'on a le problème? C'est que l'ordre égale religion. Et on ne veut pas la religion non plus. Je crois que c'est possible d'avoir le summum de la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui vient envahir une place et en même temps avoir l'ordre de Dieu. Savez-vous, c'est possible. Je sais, c'est très difficile à avoir. Et souvent, les gens vont abandonner. Ils vont soit avoir un temps free for all où n'importe quoi va se passer. C'est en français, je ne sais pas comment dire, mais un free for all, c'est il y a tout ce qui se passe là-dedans. Il y a un laisser-aller. Il y a plein de choses qui se passent. Ou de l'autre côté, on a tellement peur que, justement, il va avoir un laisser-aller qu'on met Dieu dans une boîte et Dieu ne peut plus rien faire. On ne veut pas ni un ni l'autre. On veut le juste milieu où Dieu peut envahir une place, où on peut le louer, le célébrer, mais il y a toujours un respect pour l'autorité de la place. C'est super important. Parce que si on n'est pas capable d'établir ça dans cette église, on va passer à côté ce que Dieu veut faire. Remarquez, c'est super important, parce que Dieu ne va pas vouloir reproduire des choses qui ne sont pas selon son cœur. Voyez-vous, c'est super important. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et savez-vous, moi, avant, au début de la semaine, je ne pensais pas prêcher ça, mais le Seigneur m'a mis vraiment l'importance de prier là-dessus et de vous partager ça. Alors, on va parler un petit peu de l'ordre. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 17, 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 17, il est écrit, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Je vais le relire. « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc, Dieu nous appelle à honorer tout le monde. Vous avez un frère, une sœur dans l'assemblée ici, Dieu vous appelle, vous avez un mandat de Dieu de les honorer. Qu'est-ce que ça veut dire, honorer? Ça veut dire, on va bien traiter la personne, hein? On n'a pas une définition très compliquée, mais on va vouloir prendre soin de la personne comme nous on voudrait qu'on fasse prendre soin. Je sais pas comment le dire ou juste là, mais finalement on veut faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse à nous. Hein? On va honorer et on va élever la personne, on va la bénir parce qu'on veut que la personne se sente respectée. Super important. Donc, honorer tout le monde, on va respecter tout le monde, aimer les frères. Et ici, on est entre frères et sœurs dans cette assemblée. Comme vous savez, on dit souvent que nous sommes une famille d'église. Ça, c'est pas partout. On ne voit pas ça partout. Dans bien des assemblées, les gens disent bonjour, bye bye, et puis on se connaît pas du tout, on fraternise pas ensemble. Ça devient de la religion et ce n'est pas une famille. Ici, nous sommes une famille. On fraternise ensemble, on se voit beaucoup, on prie ensemble, il y a des activités plein air qu'on fait, il y a plein de choses, des retraites. Ça, c'est un positif. L'autre côté de la médaille, quand on devient trop familier, ça devient un problème. Être trop familier, ça veut dire qu'on commence à manquer de respect envers les gens et la façon qu'on s'adresse à des gens. Moi, je peux vous dire, j'avais quelqu'un dans ma famille, je ne dirais pas qui, mais quand je le voyais, je le trouvais trop familier. Il se donnait une permission de me dire des choses que je ne lui demandais pas. Il me disait, tes cheveux sont trop courts de ce temps-ci. Mais là, je me disais, mais t'es qui, toi, pour me dire ça? Mais je ne disais pas. Mais je me disais, je ne suis pas assez proche de cette personne-là pour que cette personne puisse se sentir à l'aise de me dire que mes cheveux sont trop courts. Hein? Pensez-vous, vous parlez avec un frère et une sœur ici, les gens ne devraient pas se sentir tellement à l'aise de vous faire des remarques comme ça. À moins que vous êtes indécent, et puis là, on veut vous encourager à vous vêtir davantage. Ça, c'est différent, là. Mais quand on parle d'une coupe de cheveux pour hommes, je trouvais ça un petit peu, c'était trop intime. Et le problème qu'on a des fois, c'est soit qu'il y a une séparation entre le leadership et les brebis, un tel point que le pasteur est là, on ne peut jamais y parler, il n'est pas proche des gens, il n'est pas compatissant, quand quelqu'un est malade, on envoie toujours quelqu'un d'autre aller voir la personne. Ce n'est pas le leadership de cette église, je pense que vous le savez. Mais de l'autre côté, faut pas aller à un autre extrême. Parce que même si je suis votre ami, je ne suis pas votre chum. OK? Et vous allez voir pourquoi qu'on parle de ça. C'est super important. Et savez-vous, une des choses, au début, qu'est-ce que je disais à mon épouse? Nous, on était avec Victory Churches. Et là-bas, c'était super important d'appeler le pasteur, pasteur un tel. C'est super important. Et quand même, avant de faire le fondement de l'Église ici, ils nous ont dit, soyez certains que les gens vont vous appeler pasteur. Et ma femme elle m'encourageait vraiment à implémenter ça à l'Église. Et puis moi, qu'est-ce que je lui disais? J'ai pas besoin de ça, moi, des titres. Et je vais vous dire, j'ai toujours senti ça, qu'on peut me respecter sans employer un titre. Et je crois que peut-être c'est possible. Mais je disais à Mathilde, j'ai dit, oh, j'ai pas besoin de ça, ça me gêne. Et peut-être vous mettez-vous à ma place, peut-être ça vous gênerait peut-être de demander ça. Mais cette semaine, comme je priais, le Seigneur m'a montré une chose. Des fois, on dit, ben ça me dérange pas. Et j'ai pas besoin de ça. Mais Dieu m'a montré, c'est pas toi qui as besoin, c'est eux qui ont besoin de ça. Et je vais vous dire pourquoi, à matin, peut-être ça va venir vous déranger, mais quand, savez-vous, quand vous allez voir un médecin, vous allez dire docteur un tel, n'est-ce pas? Un docteur un tel. Et il y a un respect qui est là. Mais quand vous appelez le docteur Charles ou Benoît ou quelque chose, ça devient tellement intime qu'on oublie qu'il y a une autorité spirituelle ou qu'il y a une autorité sur nos dents ou sur notre corps, peu importe. On oublie qu'il y a une différence entre nous et la personne qui est au-dessus de notre autorité. Et une des choses, savez-vous, c'est pas... des fois, on a de la misère, et surtout au Québec, on a de la misère à faire ça parce qu'on se dit, on est tous égales, hein, on est tous sur le même plan. Ça, c'est faux. Nous ne sommes pas tous égales parce que nous avons des responsabilités différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous égaux au niveau de notre valeur envers Dieu. Dieu nous aime tous pareil. Dieu m'aime autant et vous autant que moi. Dieu nous aime à 100% pareil. Il nous aime, n'est-ce pas? Mais, cependant, il y a une différence. Moi, je vais devoir répondre à Dieu pour les choses qui vont avoir sorti de ma bouche que vous n'aurez pas nécessairement besoin autant. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas avoir trop d'enseignants, faire attention, de ne pas juste se lancer dans l'enseignement comme ça si Dieu ne nous a pas appelés, parce que je suis responsable envers Dieu pour les personnes que je vais avoir influencées. Donc, dire on est tous au même niveau, c'est faux. Parce que si c'était la réalité, il n'y aurait pas des exigences plus hautes pour ma vie. Vous lirez dans le Timothée, tout ça, il y a des textes qui nous parlent que je vais être redevable davantage, plus que vous. Et savez-vous, des fois, on ne veut pas parler des choses comme ça, parce qu'on se dit, bien, on dirait on prêche pour notre paroisse. Mais savez-vous, le cœur de Dieu, moi je crois le peuple de Dieu ici est tellement important que ça vaut la peine d'enseigner le plein conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Je prêche sur la dîme et les offrandes, vous savez, je l'ai prêché et je le prêche encore. Et il y a des gens qui vont dire, ben j'aime pas ça entendre ça, mais faut que je vous prêche toute la Bible. Si je vous prêche juste que Dieu veut vous bénir et que Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous délivrer, c'est vrai, mais Dieu veut de l'ordre aussi. Savez-vous? Moi, je suis obligé en tant que berger de vous prêcher toute la Bible, que vous la preniez ou non. Donc, moi, ma responsabilité, c'est vous donner la Bible, vous faites qu'est-ce que vous en voulez, vous pouvez rejeter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que je veux ici, c'est qu'on puisse établir dans nos cœurs et dans notre Église un certain respect pour l'autorité. Et dans mon temps, je disais toujours, ben c'est pas, je me sens pas obligé ou je me sens pas le besoin. Mais Dieu m'a montré clairement, j'ai entendu dans mon esprit, c'est pas toi qui as besoin, c'est eux qui ont besoin. À chaque fois que vous dites pasteur un tel, vous vous rappelez que vous êtes sous autorité. Et cette autorité-là vous protège. Et surtout, moi je peux vous dire, au Québec, qu'est-ce que j'entends souvent? On est tous pareils et il n'est pas meilleur qu'un autre en parlant d'un pasteur. Ça, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est un manque d'honneur. Vous écouterez la série sur l'honneur que j'ai prêché il y a quelques temps. Mais la racine du déshonneur doit être enlevée du milieu de nous. Enfant de Dieu. Parce que si on marche dans le déshonneur, savez-vous qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas vivre la bénédiction que Dieu en réserve. Dieu ne peut pas bénir le déshonneur. Et souvent, on a parlé contre nos politiciens, on les écoute à la télévision et on parle contre. Ça, c'est un péché, enfant de Dieu. Quand on parle contre Harper, le premier ministre Harper, quand on parle contre, et on dit ça aussi comme ça, on peut analyser les politiques et dire, bon, mais ça, me semble, je vais pas voter comme ça dans la prochaine fois parce que je trouve que c'est pas des bonnes politiques. On a le droit de faire ça. Cependant, de déshonorer nos leaders, c'est un péché devant Dieu. Ce matin, vous attendiez pas à ça, hein, un message? Même moi, je m'attendais pas à ça. Amen. Mais c'est super important parce que Dieu veut bâtir son Église correctement. Amen. Donc, ça nous dit dans ce texte-là, honorer tout le monde. Donc, tout le monde est digne d'honneur. On doit honorer nos frères et nos sœurs. Absolument, tout le monde mérite d'être honoré. Hein, on veut être aimé, mais il faut être aimable aussi. Hein? C'est ça, absolument. Un autre texte, dans 1 Timothée chapitre 5 et le verset 17. Qu'est-ce que je vous amène là ce matin? C'est la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 17. Il est écrit, en parlant du leadership, les anciens dans une église, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ici, ça nous dit un double honneur. Aussi, on comprend dans le contexte, ça veut dire aussi que le pasteur doit être rémunéré comme berger. Mais qu'est-ce que je veux souligner ici? C'est pas ça. C'est le double honneur. Ce qui veut dire, à partir d'aujourd'hui, on établit une chose parmi nous. Le leadership de l'Assemblée ici, pasteur Jérémy, pasteur Jean, pasteur Wallace et moi-même, on va employer dorénavant le titre pasteur avant de dire leur nom. C'est une chose qui va choquer des Québécois parce qu'ils vont dire, mais pourquoi on est proche, on est intime avec la personne. Mais savez-vous, moi j'ai été intime du fondateur du Miracle Channel. Son nom c'était soit pasteur Dick Duwert ou docteur Dick Duwert. Et moi je l'appelais docteur. Et même aujourd'hui, je suis plus sous son autorité, mais à chaque fois que je l'appelle, même si j'étais super intime avec lui, même si on allait manger chez eux, même si on mangeait l'action de grâce avec eux, je l'appelais ou je parlais avec lui, puis c'était toujours docteur Dick. C'était toujours comme ça, parce qu'il y avait un respect d'autorité. Et au Québec, puis je veux pas que vous sentiez, ben avant, j'ai jamais dit ça, avant, là, est-ce que tu croyais que j'étais effronté avec toi? Non, pas du tout. Je crois pas qu'on était effronté ou qu'on manquait nécessairement un manque de respect. C'était pas ça, parce que non plus, ça n'avait pas été annoncé ou ça n'avait pas été dit. Mais je vois et je crois que le Seigneur est en train de préparer notre Église pour beaucoup plus encore. Je crois, et il va y avoir une différence entre la brebis et le berger. Et je sais, il y a des gens, ça va leur déranger, et ces gens-là pourront rester à l'extérieur de notre église, parce qu'ici, on va être une église, on va marcher avec ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire non plus qu'on va, on va assommer les brebis. Ma relation avec les brebis ne changera jamais. Autant que j'aime les brebis et je vais valoriser et que je vais honorer les brebis, en même temps, le leadership de l'église doit être honoré et respecté aussi. Voyez-vous, c'est pas une domination, c'est pas ça qu'on appelle. On est en train de dire, on veut bénir le leadership et on veut se bénir aussi. Savez-vous, c'est biblique, le psaume 133, je vais vous inviter à tourner là. Et par la suite, on va marcher dans l'unité et ça va être tellement merveilleux parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de défaire les plans de l'ennemi parmi nous. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il sait premièrement qu'est-ce qui s'en vient. Il sait là, qu'il y a un réveil qui s'en vient, qu'on va vivre la gloire de Dieu. Il sait qu'il y a des gens qui vont être remplis du Saint-Esprit, qui vont être totalement changés, transformés. Il sait qu'il y a, je sais pas, une vingtaine de notre assemblée qui sont en formation, qui sont en train d'être formés pour devenir des leaders de demain. Il sait, lui, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec l'Institut biblique. Mais pensez-vous qui veut qu'on puisse porter du fruit et qu'on fasse une révolution dans notre coin, dans notre région ici. Non! Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va essayer de de faire la discorde entre nous, faire des chicanes dans le camp. Il va essayer d'enlever de l'honneur ou qu'on parle et quand on s'adresse à quelqu'un qu'on manque d'amour. Il va essayer de faire toutes sortes d'affaires pour avorter les plans de Dieu. Mais moi, je peux vous dire, on va l'empêcher de faire ça parmi nous. Parce qu'on est assez réveillé pour voir les plans et les jeux de l'ennemi. Et on va dire, parmi nous, on va continuer à marcher dans l'amour. Quand je vais parler à quelqu'un, à mon frère, ma soeur, ça va être enrobé d'amour. Je ne dirai pas à quelqu'un, « Hey, tasse-toi d'ici. » Jamais de la vie que je vais parler comme ça à mon frère et ma soeur. Je vais dire, « Excuse-moi, mon frère, pourrais-tu te tasser deux pas? J'ai besoin de passer. » On va faire attention aux émotions, aux sentiments de nos frères et de nos soeurs parce qu'on choisit l'amour. Ça fait longtemps que je le prêche, on choisit l'amour, on va continuer à choisir l'amour et on choisit l'honneur aussi. On choisit à honorer nos frères et nos sœurs et aussi notre leadership, comme j'ai déjà dit avant et on va dire encore, on ne laissera pas des gens arriver à l'église et parler contre le leadership de l'église. Moi, j'ai été super béni, j'ai su qu'il y avait une personne qui est arrivée qui parlait contre le leadership et immédiatement quelqu'un dans l'église a dit, ici, ça ne marche pas comme ça. Ici, on n'assassine pas nos pasteurs et la femme du pasteur puis les autres. On ne parle pas comme ça ici à notre église parce qu'ici, on marche dans l'honneur. Parce que c'est ça que Dieu bénit. Quand on marche dans l'honneur et on se bénit et on parle à nos leaders et on parle à nos frères et sœurs avec respect et honneur, Dieu, là, il déploie sa bénédiction sur ça. Donc, il n'y a rien qui va nous empêcher de rentrer dans le maximum de ce que Dieu veut pour nous. Il n'y a rien, à moins qu'on décide de marcher dans le péché. T'sais, on peut marcher dans l'honneur et vivre dans le péché. Non plus, on ne veut pas ça non plus. On veut être la brebis qui se met à part pour Dieu. On veut être l'épouse qui est vêtue de vêtements blancs. Hein, c'est ça qu'on veut. Je me dis, savez-vous, ça dépend de nous. Si on vit la gloire de Dieu, ça dépend de nous. Dieu est là, il attend, il dit, je veux déverser mon onction sur vous. Je veux déverser la puissance de Dieu sur vous. Je veux me servir de vous. C'est ça que Dieu veut. Mais il attend. Il attend qu'on se mette en ordre. Et c'est venu juste cette semaine, j'ai réalisé qu'on a vraiment besoin un réajustement. Amen. Donc, je vais lire dans le psaume 133, il est écrit, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Au verset 2, « C'est comme l'huile précieuse, l'onction, qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Voyez-vous, on parle ici de l'huile sur la barbe qui descend. Ça descend de, je vais relire ici, là, ça dit. Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On parle de l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Voyez-vous, quand vous bénissez la tête, la barbe va être bénie, les vêtements vont être bénis, tout le monde va être béni. Si on maudit la tête, le restant est maudit. Et quand on travaille, ça c'est juste un principe spirituel que je vous donne ce matin. C'est un principe spirituel. Si on l'adopte vraiment dans nos cœurs et dans nos pratiques, le restant va suivre, frères et sœurs. Puis, savez-vous, un pasteur en temps normal ne veut pas prêcher un message comme ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on dirait qu'on prêche pour notre paroisse. Mais c'est pas ça en réalité, parce que je suis en train de prêcher pour votre paroisse. Parce que c'est ça. Parce que je suis certain que vous ne voulez pas tourner en rond. Est-ce que quelqu'un ici, vous voulez tourner en rond? Vous voulez vivre une église stagnante, qui ne grandit pas, où on vit la religion? Non, on ne veut pas vivre ça. On veut vivre. Il y a plein d'églises qui veulent vivre la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire la différence ici? On va mettre notre vie en règle. On va mettre notre vie en règle, puis on va dire, ici, je vais même peut-être me faire ridiculiser. Il y a des gens qui vont dire, ah, là-bas dans cette église-là, ils l'appellent tous pasteur. On roule les yeux, puis là, ah, ouais, eux autres sont obligés de faire ça. Savez-vous, qu'est-ce qu'on fait? C'est un choix. C'est un choix. Parce que moi, je me rappelle. Moi, tous mes pasteurs de toute ma vie, là, j'ai toujours appelé pasteur. J'ai toujours fait ça, j'ai jamais pu même. Il y en avait un qui me disait, appelle-moi un tel, je ne suis pas capable. Parce que pour moi, c'était un signe d'honneur. Puis c'est même pas nécessairement l'honneur pour la personne, c'est l'honneur pour la position de la personne. Parce que quand je reconnais ça, je reconnais que c'est Dieu qui met un appel, et là je reconnais aussi que moi je suis protégé sous cette autorité-là. C'est spirituel, mais je sais, puis je ne veux pas parler contre le Québec. Peut-être que c'est plus la francophonie. Dans la francophonie, on a beaucoup de difficultés avec l'autorité. C'est comme tout en dedans nous, c'est comme, non, je ne veux pas. Je ne veux pas honorer. Pourquoi? Parce qu'on a été abusé dans le passé. Il y a eu un abus d'autorité dans le passé. Hein? Il y a eu un abus dans le passé. Et là, aujourd'hui, c'est comme, on est tous corrects, puis on est tous sur le même niveau. Mais l'abus, ce n'est pas de Dieu. Mais le déshonneur non plus. Et moi, j'ai eu le privilège de voyager dans d'autres pays. J'ai vu l'extrême. J'ai vu des choses absolument, en tout cas, spéciales, on va dire ça comme ça, où c'était l'adoration devant le pasteur. Et c'est certainement pas ça. Ça déplaît à Dieu aussi. Hein, l'adoration, j'ai vu une fois un pasteur, il était comme ça, dans son église, dans son bureau. Et puis j'étais là, et puis là, on enlevait ses vêtements devant nous, sa belle robe, il y avait une toge, on l'enlevait, sa toge devant nous, là on l'essuyait, on donnait un jus d'orange. Et c'était l'honneur, mais à l'extrême, moi je trouvais. J'étais même mal à l'aise de vivre ça. C'est pas ça qu'on veut ici, là. C'est pas ça qu'on veut. Mais on veut juste le respect. Ah oui, aussi, du jus d'orange, ce serait bon, par exemple. Non, mais vous comprenez, mon cœur, là, c'est vraiment... Puis c'est pour ça que je disais, c'est un message comme ça, c'est pas un message que la majorité des pasteurs veulent prêcher. Parce que, hey, quelle sorte de message? On prêche quasiment pour soi-même, mais je prêche aussi pour tout le leadership et les leaders qui s'en viennent. Parce que je sais qu'il y en a plein des leaders qui sont en formation présentement à l'école biblique. Plus tard, d'ici 2 ans, quand vous allez graduer, comment vous voulez être traité? Comment vous voulez être respecté? Est-ce que vous voulez, quand vous êtes dans un groupe, que les gens se mettent à s'ostiner et contredire des choses? Non, il y a un temps pour toutes choses, hein? Ça, on a des commentaires, on vient parler en privé et on essaye de faire les choses pour que la personne soit respectée. Donc, ce matin, dans l'école de l'esprit, le premier point qu'on vient de voir ensemble, c'était un point glorieux. Avant les miracles, valoriser les valeurs de l'esprit de Dieu. Il faut valoriser les valeurs de l'esprit. Puis, en tout cas... Moi, je suis content de l'avoir dit. Êtes-vous content de l'avoir entendu? C'est pas tout le monde, mais... Amen. Amen. Donc, avant d'aller au prochain point, une des choses, je veux vraiment vous exhorter comme Église, quand vous allez parler à votre frère, votre sœur, examinez le ton quand vous parlez à quelqu'un. Sur quel ton vous parlez à quelqu'un? Est-ce que c'est un ton de critique? Peut-être que vous dites rien de mal. Mais peut-être juste le ton. Comment vous parlez à vos frères et vos sœurs? Super important. Est-ce que vous arrivez à l'heure quand vous arrivez à l'église? Ça, c'est un autre point sensible. Ouch! Savez-vous si notre rendez-vous, c'était avec la reine d'Angleterre? Est-ce que vous arriviez 10 minutes en retard? Mais pourtant, on s'en vient rencontrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je sais, moi, là, savez-vous, je ne prêche pas des messages pour me faire aimer. C'est pour ça qu'on est moins nombreux. Non, mais c'est vrai. Mais ce matin, j'ai fait un préface. J'ai dit, je ne sais pas si c'est le mot, mais une préface. J'ai fait une préface. C'est que je ne suis pas un orateur. Je suis un orateur pour les gens sur enseignement.com. Mais pour vous, moi, je suis le berger. Sauf que c'est soit vous écoutez ou que vous continuez dans le fossé. Puis les gens qui disent, ben moi, je m'en vais dans le fossé, mais après, ils sortent puis ils s'en vont dans un autre fossé ailleurs. Puis ils tournent en rond 10 ans, 10, 15, 20 ans. Puis là, ils sont blessés ailleurs. Le pasteur m'a blessé. Je ne suis pas là pour vous blesser. Moi, je suis là pour voir avancer. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, puis pour ceux qui ne sont pas ici, je ne prêcherai pas à la chorale. Ceux qui ont décidé de rester chez eux aujourd'hui, qui vont l'écouter sur l'Internet, que Dieu vous bénisse chez vous. Mais moi, dimanche prochain, je vais être ici. Je vais être fidèle au poste. On ne vient pas à l'église quand ça nous tente. On vient à l'église parce que c'est un principe établi dans nos vies. Je ne me suis jamais levé un matin et dire à ma femme, « Bof, je vais-tu y aller à l'église ce matin ou non? » Ben les gens, ils s'attendent que tu vas prêcher. « Wow, j'ai pas super bien dormi l'année passée. Je pense que je vais écouter une nouvelle à la place. » Imaginez! L'apôtre Paul a dit aux gens, « Faites comme moi, examinez ma vie. Est-ce qu'on peut demander la même chose pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à dire la même chose? » Donc, c'est ça, c'est certain. On n'est pas une église légaliste. Vous êtes partis en vacances, soyez bénis. On se réjouit que vous avez un voyage à Hawaï. OK? On est bénis pour vous, on va se réjouir avec vous. Mais on a de l'ordre dans l'Église, dans le sens, dans notre vie, est-ce que vous payez Hydro-Québec une fois par six mois? Si c'est le cas, ben peut-être vous avez froid chez vous. Non, c'est une chose, ça vient tout le temps, vous le faites tout le temps. On fait toujours des choses régulièrement. Hein? C'est comme on se lave à tous les jours, on fait des choses à tous les jours. Mais à chaque semaine, on vient célébrer le Seigneur Jésus. Ça fait partie de notre vie. Un chrétien, ça lui fait pas mal d'aller à l'église. Au contraire, il dit, j'ai hâte d'y aller. Et non seulement, j'ai tellement hâte que je vais arriver de bonne heure et je vais prier et je vais intercéder. Des fois, c'est impossible. Il y a des mamans qui ont des enfants. On n'est pas une église légaliste. On n'est pas légaliste. On est juste en train de dire, ayons des principes. Ayons des principes dans notre église. Je suis sévère, là, matin. Hein? C'est rare que je suis sévère de même. Mais c'est parce qu'on veut une église qui a de l'allure. On veut une église où les gens sont engagés avec Dieu, qui aiment Dieu, qui ont des principes, s'ils ont un ministère, ils sont là au ministère, ils laissent pas tomber les gens. On est régulier, on est constant, on est engagé et on rentre dans la terre promise. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, c'était bon, hein, ce matin. 11h15 et puis il nous reste encore beaucoup de temps. Alléluia. Alors, ce matin, point numéro 2. Point numéro 2. Priez pour votre pasteur. Non, c'est ça. Non, point numéro 2. OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans Jean 3, verset 3. On parle toujours du Saint-Esprit. En passant, le Saint-Esprit est saint. Donc, j'ai pas mis beaucoup d'emphase sur la sainteté, mais on peut vivre, être ordonné dans notre Église, mais si on vit dans le péché, Dieu ne se manifestera pas non plus. Il faut vivre dans la sainteté. Est-ce que c'est le légalisme, être saint? Non. Le légalisme, c'est de rajouter des règlements que l'homme a mis dans l'Église. Par exemple, ma mère, quand elle était jeune, se faisait dire, on ne peut pas patiner les dimanches. Ça, c'est un règlement par les hommes, inventé par les hommes. On peut patiner les dimanches et être sauvé, enfant de Dieu. OK? Dans son temps, ma mère, elle avait des peignes hautes. Hein, c'était peigné haut, là, avec une postiche, tout ça. Et il y avait une femme à son église qui l'a pris par la tête une fois. Elle a dit, c'est pas tes vrais cheveux, ça. Puis elle a pris la main, puis elle a arraché. Mais non, elle pensait que c'était une postiche, mais c'était ses vrais cheveux. Et puis finalement, la femme, elle s'est peut-être sentie mal. Ça, c'est du légalisme. Quand on impose des choses que la Bible ne dit pas. Si on veut patiner le dimanche, après l'église, c'est correct, c'est bon. Faut avoir juste nos priorités à bonne place. Mais l'affaire est, c'est que d'aller se saouler le samedi soir et d'être dans l'équipe de la louange le dimanche matin, c'est pas bon, ça marche pas. Non, non. Moi, j'ai déjà été dans une assemblée où c'est ça qui se passait. J'étais le leader de la louange à l'époque. Il y avait une jeune femme, elle se saoulait la veille, elle arrivait le dimanche matin pour louer les louanges à l'Éternel. J'ai dit, c'est soit que tu te repentes ou tu débarques. Elle dit, je débarque. Parfait, ça fait de la place pour d'autres. Mais savez-vous, non, mais c'est vrai. On ne tolérera pas des choses comme ça. En passant, on n'a jamais vécu ça, là, dans notre équipe de louange. C'est pas ça pour ça. Mais de l'ordre dans l'Église, ça l'implique ça. La sainteté, hey, sais-tu, c'est pas compliqué. C'est de suivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. OK, donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va continuer à voir? On veut tous arriver à cette place d'être dans la plénitude du Saint-Esprit. Il y en a certains d'entre vous, vous avez rempli le sondage et c'était écrit, je me sens desséché spirituellement. Des fois, on peut dire, ben, je me sens comme un poteau de téléphone. Savez-vous, c'est pas la volonté de Dieu que vous sentez desséché. C'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est vous imprégner de son onction. Il veut vous imprégner de sa présence. Quand on loue le Seigneur, il veut descendre sur vous. Il veut vous rencontrer spirituellement et surnaturellement. Le Seigneur veut qu'on puisse nager dans sa rivière de son onction. Et si vous vous sentez desséché, ben gloire à Dieu, vous êtes à la bonne place parce que Dieu va vous remplir. Et pendant des semaines, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre, mais pendant des semaines, on va vous parler de la puissance du Saint-Esprit et on va se laisser imbiber par sa présence. Et ce matin, j'avais même ça de préparer. Une corde jaune. Pourquoi j'ai une corde jaune? Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être le détwister un petit peu. Je fais une illustration aujourd'hui. On va faire à semblant. C'est tellement bien fait. Là. On a tellement un esprit d'excellence. C'est bien fait. Là. C'est correct. On va faire à semblant que c'est attaché après ce speaker-là. Il y en a, vous marchez dans votre vie chrétienne et vous voulez rentrer dans les choses de Dieu. Mais vous êtes limité parce que vous êtes attaché à votre passé. Vous êtes attaché à des doctrines du passé. Et au lieu de vous soumettre à la parole de Dieu, vous vous soumettez à la parole de l'homme. Et moi, aujourd'hui, mon invitation, je peux vous dire, vous pourrez écouter le message aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas prêt à relâcher la parole de l'homme pour être renouvelé par la parole de Dieu, ça ne vous donne rien. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez entendre, je vais prêcher des choses, et puis vous allez dire, ben moi, dans mon ancienne église, ou dans mes relations du passé, ou même dans l'institut biblique où j'ai été formé dans le passé, il me disait le contraire à qu'est-ce que tu dis là. Mais si, qu'est-ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu, on est mieux de changer nos vieilles croyances. Amen. Et c'est ça pour tous les messages. Ce que je vais vous prêcher, je m'engage devant vous et devant Dieu qu'il n'y a rien qui va sortir qui ne sort pas de la parole de Dieu. Je vais vous donner un verset. Vous savez, c'est ma coutume. Chaque fois, je vous dis quelque chose, il y a un verset et deux, trois qui vont venir appuyer la même chose. Parce que le Seigneur veut que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Et je vous dis, si vous êtes prêts, vous faites confiance à l'Esprit de Dieu qui est en vous, commencez à y faire confiance que pour une fois dans votre vie, vous allez entrer dans plus. Il y en a qui disent « je suis desséché spirituellement », mais je vous pose, si vous êtes, c'était un sondage anonyme en passant, si vous êtes une des personnes qui a écrit la chose « je suis desséché », êtes-vous content, êtes-vous satisfait d'être desséché? Êtes-vous arrivé à une place où peut-être vous allez dire « je suis prêt à vivre plus ». Bien, si vous êtes prêt à vivre plus, ça se peut là que vous allez devoir laisser prise du passé et de vos vieilles doctrines du passé. Aujourd'hui, moi, je vous dis ça en tant que représentant du Seigneur. Le passé, c'est le passé. Les doctrines du passé, c'est le passé. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à dire, « Seigneur, je mets ma foi pas en Joel Spink, je mets ma foi en toi. Je mets ma foi dans ta parole. Et s'il y a des choses, Seigneur, qui sont différentes de ce que j'ai entendu dans le passé, je vais croire ta parole. » Ma foi, en anglais, j'ai le mot « allegiance ». Allégeance, c'est à ta parole. C'est pas à mon enseignement du passé. Parce que moi, je peux vous dire, à matin, c'est full sévère. Des fois, on rit au bout, puis des fois, c'est full sévère. Mais savez-vous, si on est prêt en église et dire, moi là, c'est la parole de Dieu qui compte numéro un. Si vous faites ça, savez-vous, on va tous vivre une révolution individuelle. On va tous le vivre. Puis là, après, moi, je vais avoir super hâte de vivre la retraite. Pour vivre, moi, j'ai ma foi. Ma foi est là-bas. Et ici aussi, là, on va en vivre ici. Mais moi, j'ai la foi que, rendu à ce point-là, on va avoir tellement bâti la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme on va écouter la parole de Dieu, ça va être tellement bâti dans nous, que là, on va être prêt à exploser, rendu là-bas. Amen? Ah, donc, moi, c'est ça, ma foi. Ma foi est là. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt à abandonner les choses du passé. Dans Jean 3:3, on voit ici une expérience dans le Saint-Esprit. Ça nous parle ici de la nouvelle naissance. On a parlé à l'Institut biblique hier, en fait, de cette expérience-là. Et ce matin, on va revoir des passages qu'on a vus à l'Institut biblique. Il y en a certains d'entre vous, vous étiez là et vous allez dire, « Ah, ben je l'ai déjà lu ce verset-là hier. » Savez-vous, là, comme j'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On peut l'entendre plus qu'une fois et être béni. Amen. Donc, la nouvelle naissance. Dans Jean 3:3, il est écrit, « Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et nous voulons voir le royaume de Dieu, alors tous ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ, qui ont dit, « Je te donne ma vie », qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de la mort à la vie et on a reçu le Saint-Esprit qui est venu nous habiter. Et là, on a vécu ce qu'on appelle le miracle de la nouvelle naissance. Amen. Donc, on a la vie de Dieu, on a le Saint-Esprit qui nous habite. Amen. Ça, c'est merveilleux. Et là, ensuite, on voit dans Jean 14:17, Jésus a fait une prophétie. Et on va lire la prophétie du Seigneur Jésus. Et c'est merveilleux parce que c'est quelque chose que tout enfant de Dieu a maintenant reçu. Dans Jean 14, verset 17, il est écrit, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, en parlant des disciples, vous le connaissez car il demeure avec vous Voyez-vous ici, Jésus, il prophétisait, il disait à ses disciples, le Saint-Esprit, il demeure avec vous et il sera en vous. Il est en train de dire à ses disciples, bientôt ça va venir, le Saint-Esprit va venir habiter en vous. Avant l'œuvre de la croix, les gens qui habitaient sur la terre, qui marchaient dans la foi qu'un jour le Messie viendrait, bien, ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. C'était des gens qui marchaient avec une foi dans le Seigneur. Mais on a eu besoin de l'œuvre de la croix avant de vivre l'héritage de la nouvelle naissance. Et là, les gens qui marchaient sur la terre comme ça pouvaient avoir le Saint-Esprit avec eux. Comme les disciples de Jésus, ils marchaient avec Jésus, ils marchaient dans la foi, ils voyaient les miracles, ils voyaient toutes sortes de grandes choses merveilleuses. Mais pourtant, ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Même si c'étaient les disciples de Jésus, ils n'étaient pas nés de nouveau. C'était impossible de naître de nouveau parce que Jésus n'avait pas payé le prix encore à la croix. Et là, dans Jean 7, verset 38-39, on voit un autre texte ici où Jésus prophétise. Il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'avait même pas payé encore pour le prix de la croix. Il n'avait pas encore payé pour notre dette de péché. Mais il prophétisait, un jour, l'Esprit, vous allez le recevoir. Et là, dans 2 Corinthiens 5, 18, nous voyons que Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Alors, l'œuvre de la croix nous a donné cette réconciliation possible. Et maintenant, nous pouvons naître de nouveau. C'est possible pour chacun d'entre vous. Donc, nous voyons, nous avons vu que Jésus avait prophétisé à ses disciples qu'un jour, le Saint-Esprit viendrait en eux. Vous avez suivi jusqu'à date? Vous êtes là? Amen. Maintenant, l'accomplissement. Savez-vous que Jésus, quand il prophétise, ça se réalise? Gloire à Dieu. Donc, une semaine après la résurrection de Jésus, nous lisons, dans Jean 20, verset 22. Ça, c'est un verset clé. Un verset que vous devez vraiment noter dans votre Bible, vous en rappeler. Jean 20, verset 22. Une semaine, c'est une semaine après la résurrection de Jésus. Là, on sait Jésus est allé mourir sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et là, il avait prophétisé un jour, le Saint-Esprit viendra en vous. Maintenant, voyons qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 20, 22. Après ces paroles, en parlant de Jésus, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Remarquez, dans le grec, quand c'est écrit « il souffla sur eux », en fait, ça dit « il souffla en eux ». Il a soufflé en eux et il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Alors, ces hommes-là qui aimaient Dieu, qui avaient marché avec Jésus sur la terre, ils avaient vu plein de grandes choses, ils savaient un jour, non seulement ce que le Saint-Esprit va être avec nous, mais le Saint-Esprit va être en nous. Et là, dans Jean 20, 22, là, Jésus dit, une semaine plus tard, il arrive, et là, maintenant, recevez le Saint-Esprit. Et là, Saint-Esprit est venu en eux, les habiter. Et là, ils ont vécu le miracle de la nouvelle naissance. N'est-ce pas merveilleux? Il y avait un esprit mort, mais là, il était régénéré, parce qu'ils ont passé de la mort à la vie. C'est super important de remarquer cela. Dans Romains 8, 9, ça dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ça, c'est une chose super importante qu'on doit retenir. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. C'est certain. Amen. Parce que c'est écrit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, c'est sûr et certain que tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Et on parle ici d'avoir le Saint-Esprit en nous et on reçoit ça à la nouvelle naissance. Amen. Et un autre texte, parce que c'est biblique, qu'est-ce qu'on dit là ici? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ça dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Voyez-vous, donc c'est établi dans la parole de Dieu, à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en vous. Maintenant, on va voir juste rapidement, je ne prendrai pas le temps de les lire, mais je vais juste au moins vous donner les références. Autre terme pour expliquer l'expérience du salut, donc on voit dans Jean 3, 5 à 8, on a parlé de la nouvelle naissance, donc naître de l'esprit. On peut dire que quelqu'un est sauvé, bon ben, ils ont vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, naître de l'esprit. Une autre chose, être scellé du Saint-Esprit, dans Éphésiens 1, verset 13. Être scellé, donc nous avons le sceau, nous appartenons à Dieu. Et le baptême par l'Esprit dans le corps de Christ. Remarquez bien, et on va voir après d'autres choses. Dans le baptême par l'Esprit dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12 et le verset 13, ceci, ça nous parle de la nouvelle naissance. Et après, on va voir quelle est la différence entre le baptême par l'Esprit et le baptême dans l'Esprit. Parce qu'il y a une différence entre le baptême par l'Esprit de Dieu et le baptême dans l'Esprit de Dieu. On va le voir. Et si vous ne faites pas de différence entre ces deux choses-là, vous allez passer à côté d'une expérience que le Seigneur a prévue pour vous. Il y a quelque chose que Dieu veut pour vous, mais souvent dans nos églises, on lit les textes et on mélange tout ça dans un sac, on mélange tout ça et on dit « Ah, ben, c'est toute la même affaire » quand ce n'est pas la même affaire. C'est deux expériences différentes et il y a deux fruits, deux résultats différents. On parle ici le baptême par l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Si vous lisez dans la Bible Louis II, votre Bible a été mal traduite à ce niveau-là. Je vais vous lire dans le français courant. Ça dit « En nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. » Remarquez pourquoi. Nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Ici, on parle d'être baptisé par l'Esprit, être baptisé par l'Esprit dans le corps de Christ. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie du corps de Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit vous a pris et vous a baptisé en Jésus. Et vous faites partie du corps de Christ. Ça, c'est un baptême. Et pourquoi on vit ce baptême-là? C'est pour faire partie du corps. Il est écrit pour former un seul corps. C'est le « pour » qui est là. Dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc, on fait partie vraiment de quelque chose tout à fait nouveau et on a reçu une nouvelle nature également. Bon, on a vu ça jusqu'à date. Ici, l'expérience du salut. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir maintenant? C'est pourtant on a vécu cette expérience où on a reçu le Saint-Esprit en nous. Pourtant, Jésus a dit à ses disciples quelque chose de super remarquable dans Actes chapitre 1 et le verset 3 à 8. Et on va voir ça ensemble. Actes chapitre 1 et le verset 3 à 8. Ici, nous retrouvons les disciples. Et le Seigneur Jésus, 33 jours après avoir reçu le Saint-Esprit. Remarquez, c'est 33 jours après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit en eux dans Jean 20, 22. 33 jours plus tard, on les retrouve ici dans Acte 1, versets 3 à 8. Ici, ça dit, après qu'il eut souffert, en parlant de Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, ici c'est mal traduit, dans la Louis II, ça dit « il leur recommanda ». Mais dans le grec, ça dit il leur commanda ». En anglais, ça dit « he charges them ». Il est leur commanda. Donc, ce n'est pas une recommandation, hey, si ça vous tente, faites ceci. Non, c'est « je vous commande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Remarquez la différence ici. Ils avaient reçu le Saint-Esprit en eux et après, 33 jours plus tard, Jésus, ici on peut voir, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y en a un, on a vu, on a été baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ pour former le corps de Christ, pour former un seul corps. Ici, ensuite, on parle d'un baptême. L'Esprit qui vient sur nous pour être des témoins. Pas la même chose. Des témoins, quelle sorte de témoins? Des témoins de puissance. Sommes-nous satisfaits de la puissance que nous avons? Si on est insatisfait, peut-être il nous manque quelque chose. Des fois, on dit, « Ah ben, moi j'ai tout reçu au salut, j'ai toutes les bénédictions spirituelles. » Oui, positionnellement, ça vous appartient. Mais est-ce que vous les avez reçues? Le salut, positionnellement, c'est offert à toute la création. N'importe qui peut être sauvé. C'est déjà payé, mais c'est par la foi qu'on va saisir la chose. C'est par la foi qu'on passe de la mort à la vie. C'est par la foi qu'on reçoit la nouvelle naissance. Mais c'est la même chose. Ici, on parle d'être revêtu de la puissance de Dieu. Comment vous allez être revêtu de cette puissance-là? Par la foi. Par la foi, vous allez le prendre et vous allez le recevoir. Et vous allez croire, par la foi, vous allez croire Dieu au lieu de croire les hommes qui vous disent pourquoi c'est impossible. Vous allez croire Dieu au lieu de croire des gens qui ont dit toutes sortes de doctrines qui vous volent d'une expérience bénie. Moi, je crois Dieu. Vous aussi, par la foi, je crois. Amen. Le mot baptisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être plongé, immergé dans quelque chose. Ici, bien sûr, c'est d'être immergé qu'on parle dans le Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir ensemble quel est le fruit, quelle est l'évidence que quelqu'un dans la parole de Dieu avait vécu cette chose-là. Quelle est l'évidence? Bien, dans Actes 2, 4, on va regarder ensemble Actes chapitre 2 et le verset 4. Vous savez, des fois, on dit, bien, moi, je crois telle ou telle chose parce que dans mon église, on m'a dit pourquoi je croyais ça. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est d'avoir les versets pour vous-même. Vous allez voir, vous allez avoir les versets et dire, moi, je crois que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, voici qu'est-ce qu'on devrait vivre. Pourquoi? Parce que verset celui-là, 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 ils disent toutes la même chose. Alors, moi, je comprends ça comme ça. Quand on a la parole de Dieu comme appui, on est correct. Dans Actes 2, 4, écoutez bien ceci. C'est-à-dire, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, tout d'un coup, ils se sont mis à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est quelque chose que l'Église primitive a vécu. Et plus tard, on va voir, mais qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir. Et vous allez comprendre pourquoi le diable ne veut pas que vous priez en langue. Vous allez comprendre pourquoi il y a une attaque contre ce message-là, parce que ça prend beaucoup d'humilité, parler en langue. Ça faut marcher sur notre orgueil, parce que notre tête veut tout comprendre. Mais vous allez comprendre quand on est prêt à s'humilier devant Dieu et de marcher dans la parole de Dieu, dans le plein évangile. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Il y a des gens qui ont honte de cette partie-là de la Bible parce qu'ils se disent, ben, ça va me ridiculiser. Je vais devoir marcher sur mon orgueil. Mais pour entrer dans les choses de Dieu, faut abandonner notre orgueil. Que Dieu nous délivre. Pour qu'on vive la puissance de Dieu parmi nous. Dans Actes 2, verset 33, en parlant de Jésus, ça dit, élevé par la droite de Dieu, il, Jésus, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Comme vous le voyez et l'entendez. Quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus, on prie la prière de repentance, est-ce qu'on voit nécessairement ou est-ce qu'on entend nécessairement un phénomène? Non. On peut entendre quelqu'un répéter en français, mais si il dit, élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Il y a quelque chose qui se passait là, quelque part. Comme vous le voyez et l'entendez, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste quelqu'un, oui, j'accepte Jésus dans mon cœur. Il y avait quelque chose qui se passait là. Et on va aller ensemble dans Actes, chapitre 8. On va regarder ensemble ici. Vous êtes encore là? Personne qui s'endort? Actes chapitre 8, on va voir ici le ministère de l'évangéliste Philippe, un homme de Dieu rempli de puissance. Vous lirez ça, Philippe, dans Actes chapitre 8, vous pourrez méditer là-dessus. Si vous avez à cœur de vivre plus de la puissance de Dieu, on peut voir qu'est-ce qu'il vivait. dans Actes chapitre 8, commençant au verset 5. On va lire quand même un bon bout de 5 à 25, mais ça va nous faire du bien, ça va bâtir notre foi, la parole de Dieu. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Voyez-vous le message qu'il prêchait? Il prêchait Jésus, là. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux, furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Savez-vous, quand il y a des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances, il y a une grande joie qui s'installe. Amen. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc, on voit Simon, un magicien en Samarie. C'est un magicien et les gens étaient vraiment impressionnés par les choses qu'il faisait. Et habituellement, en passant, quand les gens font de la magie ou des tireuses de bonne aventure ou ceux qui lisent la paume de la main, habituellement, quand ils vous rendent ce service-là, ils s'attendent à recevoir quelque chose en retour. Qu'est-ce que c'est? L'argent. OK? Donc, Simon, pensez dans sa tête, c'est ça, que lui, comment il est bâti, là. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-là, est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Bon, ici, on voit la conversion des gens et Simon est... Il voit qu'est-ce que l'évangéliste Philippe fait. Il est témoin du ministère de Philippe. Et il est touché, il est impacté dans son cœur. Et on comprend par cette chose-là qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Pourquoi? Ben parce qu'il se fait baptiser. Est-ce que l'évangéliste Philippe, rempli du Saint-Esprit, aurait baptisé quelqu'un qui n'était pas sauvé? Non. On baptise les croyants, n'est-ce pas? On baptise les gens qui se sont engagés à Jésus. Et si l'évangéliste Philippe, après l'ascension du Seigneur Jésus, on sait qu'il était dans le ministère maintenant de la grâce, sous la grâce. Et puis là, Philippe accepte de le baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Là, quelque chose se passe au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean. Il y a quelque chose qui se passe en Samarie. On va envoyer les leaders de l'Église de Jérusalem, Pierre et Jean, et puis ils vont aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on sait là que les gens là-bas ont reçu la parole de Dieu. Quand on reçoit la parole de Dieu, c'est parce qu'on a reçu quelque chose, on a accepté le Seigneur, quand on reçoit la parole de Dieu dans notre vie. Quand ça porte vraiment fruit. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prirent pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, on voit Pierre et Jean y arrivent. Ces gens-là, il y en a plusieurs d'entre eux qui sont déjà baptisés, qui ont déjà reçu la parole de Dieu. Et là, la prochaine chose qu'ils vont faire pour eux, ils disent, maintenant, je vais prier pour vous que vous receviez le Saint-Esprit. Quand on prie pour quelqu'un, pour qu'il soit sauvé, est-ce qu'on impose les mains sur eux? Soyez sauvés. Non. C'est la volonté de la personne. On dit, répète après moi cette prière ou prie de ton cœur ou quelque chose. Et la personne reçoit à ce moment-là le Saint-Esprit qui vient l'habiter. Mais on n'impose pas les mains aux gens et dit, reçois le Saint-Esprit. Non. Ça, c'est une autre expérience. Verset 15. Ben, je vais le relire. Celui-ci est arrivé chez les Samaritains, prie pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il n'était pas descendu sur eux, mais il avait certainement reçu en eux s'il avait reçu la parole et puis s'il s'était fait baptiser. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et nous parlons ici de l'autorité du baptême. Quand Jésus, on est baptisé au nom du Père, du Fils Jésus, du Saint-Esprit. Et là, quand on parle le baptême au nom de Jésus, on se réfère au baptême d'eau. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains et des apôtres, il leur offrit de l'argent. Bien, ça fait du sens. Je viens de voir quelque chose de tout à fait exceptionnel. Wow! Est-ce que je peux l'acheter moi aussi, cette puissance-là? Il y a des gens qui vont dire, non, les gens ici, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était parce que c'était une nouvelle dispensation et puis ça se passait comme ça et les gens recevaient le Saint-Esprit. Non, on est sauvés toujours de la même façon. Avant la croix, on était sauvés croyant qu'un jour le Messie viendrait, on avait notre foi dans l'œuvre de la croix, et après la croix, on a la foi que c'est fait. On est sauvés de la même façon et on reçoit le Saint-Esprit de la même façon. Là, ici, il dit au verset 19, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il pensait qu'il pouvait acheter. Puis là, on sait après, Simon, il se repent, puis il dit, oh, priez pour moi, pour pas que ça l'arrive, tout ça. Donc, il avait vraiment vécu une expérience avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Mais qu'est-ce qui est remarquable? À quelque part, il y avait quelque chose de remarquable qui s'est passé pour que l'ancien sorcier veuille acheter la puissance du Saint-Esprit. Amen? Ça fait du sens? Ça fait du sens. C'était pas juste une prière de repentance, puis recevez le Saint-Esprit, puis ah oui, c'était pas ça, là. C'était pas ça, qu'est-ce qui s'est passé. C'était quelque chose. Au verset 21, dans le grec, c'est dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, dans cette histoire de parler. À quelque part, ici, c'est pas écrit qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues, quand ils ont dit recevez le Saint-Esprit, mais il dit, t'as rien à voir avec cette histoire de parler. De cette expérience d'élocution, de cette expérience d'élocution. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, dans Actes chapitre 8? C'est que, encore une fois, une des évidences que quelque chose surnaturel arrive lors du baptême dans l'Esprit, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir de la bouche. L'élocution. Le fruit. Moi, là, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant, ayant donné des versets, vous pourrez lire en passant Actes 2, 8, 9, 10 et 19. Vous pourrez voir les expériences de ceux qui ont reçu le baptême dans l'Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Mais on se dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça donne? Je pensais que c'était pour les fanatiques, ça, parler en langue. Oui, c'est pour les fanatiques, ceux qui sont en amour avec Jésus. Vraiment, qui sont prêts à marcher sur leur orgueil. Qui ne sont pas trop religieux ou pas trop dignifié pour accepter de vivre cette chose-là. Mais si on est religieux, puis on veut toujours bien paraître, moi, c'est sûr, on ne veut pas mal paraître. Hein? Il n'y a personne qui veut mal paraître. On s'organise pour que les choses soient belles. Hein? On veut bien faire les choses. On ne devient pas fou du jour au lendemain, comme j'ai prêché l'autre semaine. On a encore notre tête sur les épaules quand on est un enfant de Dieu. Mais il faut être prêt à s'humilier et de vivre cette expérience afin de vivre le fruit que Dieu veut nous donner. On a vu tantôt dans Actes chapitre 1, verset 8, que l'Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, pas juste localement, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, on voit Jésus qui parlait de ses œuvres. Dans Jean 5, 36, ça dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Quand on parle, vous serez mes témoins, ça veut dire que Dieu nous équipe avec quelque chose pour être son témoin, pour être son représentant. Donc, quand on se déplace, on devrait avoir le même témoignage de Jésus. Est-ce qu'on l'a présentement? Non, on ne l'a pas, le même témoignage de Jésus. Moi, je ne l'ai pas dans ma vie encore. Je n'ai pas ressuscité de mort encore, malheureusement. J'ai déjà prié pour des gens qui étaient malades, qui ont été guéris, gloire à Dieu, mais je n'ai pas les œuvres de Jésus en opération dans ma vie, donc je suis toujours insatisfait. Ça veut dire que je veux plus de Dieu. Je veux plus. Et nous aussi, je pense qu'on veut tous plus de Dieu. Parce que si on croit la Bible, on est tous bien croire la Bible pour que ça vale le coup. Hein, pas juste dire, ben, c'était des belles histoires dans l'ancien temps. Non, mais s'il dit qu'on va faire des plus grandes œuvres que lui encore, ben, quelque part, on ne devrait pas se satisfaire à vivre une certaine bénédiction. On devrait vivre le max. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire en Église? C'est se dire, OK, bon, il y a des choses qu'il faut qu'on change dans nos vies pour vivre le max ensemble. Et là, on dit, on va se réajuster et on va le vivre. On a la foi, la vision qu'on va y arriver. Témoigner, dans le grec, c'est le mot « martyreo » qui veut dire « donner des évidences, apporter des preuves, apporter un témoignage sur ce que l'on sait ». On peut savoir bien des choses sur Dieu, on peut avoir la tête remplie de connaissances sur Dieu, mais si on n'est pas capable de le prouver aux gens, les gens, souvent, ne croiront pas dans le message. Mais si on peut arriver et démontrer la parole de Dieu, comme l'évangéliste Philippe, bien, les choses commencent à changer. Amen. Dans Actes, chapitre 4 et le verset 33, ça dit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. » Donc, cette grâce, cette grande puissance reposait sur eux. Alors, quand ils priaient pour les malades, quand ils faisaient les choses, il y avait une puissance surnaturelle sur eux qui venait et qui était sur eux pour accomplir les œuvres de Dieu. Mais il y avait une expérience qu'il y avait. Et vu que le temps est déjà avancé, on va continuer la semaine prochaine. On va voir ensemble, concernant les langues, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Et avant d'aller plus loin, je veux au moins vous donner 2 minutes de plus, un petit bonus. Il y a deux types de langues qu'on retrouve dans la parole. Il y a le parler en langue singulier, qu'on reçoit au moment où on est baptisé dans le Saint-Esprit. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu nous donne un langage de prière surnaturel pour prier des mystères et pour s'édifier soi-même. Parce que nous avons besoin d'être édifiés. On l'a besoin. Si Dieu nous le donne, et c'est écrit dans la parole, c'est pour votre édification, bien on l'a besoin. Et Dieu ne fait pas le favoritisme. Il ne dit pas, toi tu as le droit de t'édifier et toi non. Toi oui, non, toi. Dieu veut ça pour tout le monde. Ce langage-là, c'est un langage de prière. Tout le monde est appelé à prier. C'est pas, ben toi, tu vas pouvoir me prier de temps en temps. Pour toi, la porte est fermée. Non, c'est pour tout le monde. Une langue de prière spirituelle donnée à tous ceux qui croient. Remarquez, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et quand on parle au pluriel dans ce contexte-là, c'est parce qu'on parle de plusieurs personnes. Si on est plusieurs personnes ici rassemblées et on a tous une langue spirituelle, bien ça devient au pluriel parce qu'on se multiplie. Mais quand on est baptisé dans l'Esprit, on reçoit un langage de prière, le parler en langue. C'est un outil d'édification, 1 Corinthiens 14, 14. Et dans Actes 2, 4, tous ceux qui ont été baptisés dans l'Esprit, dans le livre des Actes, Actes 2, 4, on sait qu'il y avait 120 personnes de réunies. Et c'est écrit là, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Je relis, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Il n'y en a aucun qui peut dire, « Ben moi, ce n'est pas mon don, Dieu ne me l'a pas donné. » Non, ils furent tous, il y en avait 120 réunis, ils furent tous baptisés dans le Saint-Esprit et se mirent tous à parler en langue. Il n'y a pas d'exception de personne. Mais là, il y a également dans la parole de Dieu le don de parler diverses langues. Ici, on parle le don de parler des langues. C'est au pluriel et c'est exercé en public. C'est pas pour votre temps de dévotion personnelle à la maison. C'est un don que Dieu vous donne de parler une langue autre que la langue que vous avez reçue lors de votre baptême dans l'Esprit. C'est le don de parler diverses langues, dépendamment du contexte, dépendamment de la place où vous êtes. Et là, vous êtes inspiré surnaturellement à donner un message prophétique en langue. L'attention de tout le monde est sur vous. Et là, on est censé d'avoir l'interprétation de cette langue-là parce que c'était exercé en public et l'attention de tout le monde a été attirée vers la personne qui donnait le message. Voyez-vous, il y a deux sortes qu'on retrouve dans la parole de Dieu, le don de parler en langue et le don de parler diverses langues. Et là, on va voir la semaine prochaine l'étape. Comment ça? Il y en a qui l'ont, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Est-ce que c'est juste une question de foi? Il y en a beaucoup, c'est une question d'éducation. Comment on est enseigné? Si on s'est fait dire, c'est le plus petit des dons. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. Il y en a des églises qui disent, c'est le plus petit des dons. Ça, c'est... On va voir la semaine prochaine. Mais c'est sûr et certain, pensez-y. Le diable ne veut pas que vous priez en langue. Il veut vous enlever tout ce qui est de Dieu. Pensez-y. Si Dieu vous donne l'équipement pour une guerre, pour livrer une guerre spirituelle contre le royaume de l'ennemi, pensez-vous que le diable va vous laisser faire comme ça, puis il ne va pas essayer d'infiltrer des mensonges dans l'Église pour qu'on arrête d'exercer ces dons-là? Il va soit vous dire, ben les dons du Saint-Esprit sont passés. Ça, c'est dans les églises anti-charismatiques ou conservatrices. Mais dans 1 Corinthiens 1, verset 7, ça dit, il ne vous manque aucun don jusqu'à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Il manque aucun don. Bon, mais ceux-là qui ont lu ce texte-là, puis ils se disent, ben OK, d'abord, on est obligé d'accepter les dons du Saint-Esprit pour aujourd'hui. Cependant, c'est pas pour tout le monde. Mais ça, encore une fois, on se fait voler. Ça revient tout le temps à la même affaire. En autant que vous le faites pas, on est correct, on est content. Ça, c'est le diable. Faites-les pas, profitez-en pas. Et là, le diable se réjouit. Mais le moment que vous dites, non seulement est-ce que j'y crois, mais je vais le vivre. Ben là, le diable aime pas ça. Mais nous autres, on ne va pas juste croire et une théorie, ben oui, ça s'est passé il y a 2000 ans, certaines personnes peuvent le vivre, certaines personnes vont être sauvées, certaines personnes vont être guéries. On va croire le maximum de la Bible. Amen. Toujours dans le respect, hein, vous n'êtes pas obligé de croire comme moi. Vous n'êtes pas obligé d'être biblique. Vous n'êtes pas obligé de l'être biblique. Puis l'autre affaire, juste vous dire, n'ayez pas peur. On ne va jamais vous mettre ici en avant et dire, OK, un micro, allez-y. Hein, on ne vous gênera pas. C'est une expérience que vous vivez dans le privé chez vous. Vous faites prier, mais aussi dans l'église. Quand vous louez le Seigneur, vous faites prier en langue. Il n'y a personne qui va être là avec un micro et dire, OK, allez. C'est pas ça. Il y a deux types de langues. Puis des fois, on a peur parce qu'on a peur d'être gêné. Non, au contraire. Soyez, je vous encourage à avoir hâte de vivre quelque chose de plus avec Dieu. Parce que quand les types ont reçu, pas juste le Saint-Esprit en eux, mais sur eux, hey, ils ont vécu une transformation. C'est du positif. Ça devient quasiment du négatif dans nos églises parce qu'on a tellement ri des gens qui priaient en langue, où on a dit, ben vous autres, vous êtes nés sur l'autre bord du chemin de fer. Hein? C'est comme, mais Dieu il a des cadeaux pour son église. Puis s'il nous donne ça, c'est pour accomplir sa volonté, pour accomplir les choses sur la terre pour lui. Amen. J'essaie de finir parce que j'ai tout le temps plein d'affaires. Je vais vous donner un dernier témoignage. Un dernier témoignage. Ok, vous êtes encore là? J'ai invité l'équipe de la louange peut-être venir en attendant. Moi, là, j'ai passé par une période, quand j'étais adolescent, j'ai tout remis en question. J'ai tout remis en question les choses du Saint-Esprit. J'ai lu des livres qui me parlaient contre les choses du Saint-Esprit. Puis j'ai vraiment perdu ma joie, ma paix. J'ai été découragé avec les choses de l'Esprit. OK? Je vous dis ça. Et là, j'étais avec mes parents dans les États-Unis. Je suis allé avec eux dans une retraite une école biblique, un institut biblique là-bas aux États-Unis. C'était une fin de semaine sur le Saint-Esprit. Et moi, je venais de lire des livres contre le Saint-Esprit sur les choses que je viens de vous partager aujourd'hui. Puis j'étais vraiment mélangé et j'étais pas là du tout comme participant. J'étais là comme spectateur et j'étais comme, ben, Seigneur, tu vas me montrer si c'est vraiment, c'est-tu tout dans leur tête, ça, là? J'étais comme ça. Moi, c'est ça ma crise d'adolescence, là. C'était pas dans les bars, c'était dans une retraite biblique, là. Mais c'est-tu vraiment de Dieu? C'est-tu tout dans leur tête? Blablabla. Bla, bla. Mais là, il y avait une femme au piano qui s'est mise à chanter en langue. Mais là, c'était les diverses langues. Elle s'est mise à donner un message prophétique. Une Américaine qui ne parle pas le français, qui s'est commencée à donner un message en français pour que je l'entende. Et là, j'ai dit, Seigneur, si j'ai bien entendu, fais qu'elle répète, s'il vous plaît. Dieu est bon. Elle a tout répété l'affaire en français. Là, le pasteur américain s'est mis à interpréter le message en langue. J'ai vu, Seigneur, je te demande pardon, je me suis vraiment fait avoir par un mensonge. On peut se faire avoir. Le diable, là, il va essayer de vous voler ce qui vous appartient. Mais quand vous commencez à prier en langue, vous priez des mystères, et là, vous apprenez, hey, je priais pour toi, Saint-Esprit est venu sur moi, je priais pour toi, pour telle affaire, je ne savais même pas exactement qu'est-ce qui se passait, mais là, la personne vous dit, à même heure, à telle place, j'ai vécu un miracle, mais c'est parce que vous avez prié, vous avez été conduit par l'Esprit pour le faire. Mais diable va essayer de nous voler. Mais laissons-nous pas se faire voler, enfants de Dieu. Entrons dans les choses de Dieu. On ne met pas de pression sur personne. Vous pouvez être à l'église et ne jamais parler en langue ici. On va vous aimer autant. On vous aime. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'être guéri. On vous aime quand même, n'est-ce pas? C'est la même affaire. On aime tout le monde. Restez comme vous êtes si vous êtes satisfait comme ça. Vous n'êtes pas obligé de changer. Mais si vous avez soif et si vous avez rempli, je suis desséché puis j'en veux plus. Mais là, cherchez la face de Dieu pour plus de Dieu. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.